Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 23 dey 1400 du calendrier iranien, 13 janvier 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le corps des gardiens de la révolution islamique est entré dans l'histoire. L'Iran se souvient de la capture en 2016 des navires américains agresseurs. L'Iran et les parties européennes poursuivent leurs consultations diplomatiques à Vienne. La Corée du Sud peut verser une compensation à un groupe d'investisseurs iraniens. Et Riyad poursuit sa campagne meurtrière de frappes aériennes sur les villes yéménites. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le négociateur en chef iranien Ali Boredi Khani est arrivé mercredi soir à l'hôtel Cobourg de Vienne pour poursuivre des consultations diplomatiques avec les représentants des trois pays européens, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Selon le programme prévu, le négociateur en chef iranien s'entretiendra d'abord avec le coordinateur de l'Union européenne, de la Commission conjointe du Plan global d'action conjoint et le secrétaire général adjoint du Service d'action extérieure de l'Union européenne, Enrique Mora, pour examiner les divergences sur l'accord nucléaire iranien. Boredi Khani rencontrera ensuite les émissaires des trois pays européens. Il semble que les négociations aient abouti à une décision politique difficile pour l'Occident en raison de l'alignement des positions de la Chine et de la Russie avec la République islamique d'Iran. Le huitième tour des pourparlers sur la levée des sanctions anti-iraniennes a commencé lundi 27 décembre et les pourparlers ont progressé dans une bonne direction selon les délégations présentes à Vienne. L'Iran dénonce la suppression de son droit de vote aux Nations Unies au nom du retrait dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'organisation, soulignant que les sanctions américaines sont à l'origine du problème. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré jeudi que l'Iran est un membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies et qu'il se considère engagé pour payer intégralement et en temps fixé sa cotisation. Khatibzadeh a pointé du doigt les sanctions bancaires américaines, sévères et unilatérales, qui sont à l'origine du retard par l'Iran de sa contribution aux Nations Unies avant de rejeter la suspension par l'ONU des droits de vote de la République islamique d'Iran. La Corée du Sud peut désormais verser une compensation à un groupe d'investissement iranien après avoir reçu une exemption de sanctions de Washington. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré avoir obtenu une licence spécifique de la part du Trésor américain pour verser une compensation de 61 millions de dollars au groupe iranien Dayani. La licence nous autorise à utiliser le système financier américain pour verser une compensation à l'investisseur privé iranien, a expliqué le ministère dans un communiqué, espérant que ce dénouement aidera à améliorer les relations bilatérales avec la République islamique d'Iran. En 2018, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organisme de la Banque mondiale, avait ordonné à Séoul d'indemniser Dayani, un fabricant de machines industrielles, après l'échec de son acquisition par le Sud-Coréen Daewoo en 2010. Mais l'indemnité n'avait jamais été versée en raison des sanctions américaines. L'Arabie saoudite poursuit sa campagne meurtrière de frappes aériennes sur les villes yéménites. Les avions de combat de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont mené deux raids aériens à proximité d'un hôpital du district de Sanhan dans la province de Sanaa. Les médias locaux disent que quatre employés de l'hôpital ont été blessés, dont deux grièvement. Soutenu par l'Occident, l'Arabie saoudite et certains de ses alliés ont lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen il y a 7 ans pour y rétablir un régime fantoche. La guerre et le blocus ont poussé le pays dans ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire au monde. Les bombardements réguliers et ciblés ont détruit les infrastructures du pays et y ont propagé la famine et les maladies contagieuses. Le 12 janvier était le 6e anniversaire de la capture par les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique de 2 navires de la marine américaine dans le golfe Persique, où les marines américains ont été contraints de s'agenouiller devant les forces navales iraniennes après avoir pénétré illégalement dans les eaux territoriales de la République islamique d'Iran. Marquant l'occasion, un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré mercredi 12 janvier 2022 qu'après la capture, les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont averti les navires américains qu'ils seraient ciblés s'ils se présentaient. Les combattants de la 2e zone navale du corps des gardiens de la révolution islamique les ont sévèrement avertis que nous vous frapperons si vous pénétrez dans les eaux territoriales de l'île Farsi. Et chaque fois que ces avertissements étaient émis, ils feraient battre en retraite les navires américains, se souvient le général Ramezan Zirahi du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a déclaré que les marins du corps des gardiens de la révolution islamique n'étaient pas après la guerre, mais faisaient simplement leur devoir de défendre la République islamique d'Iran. Soulignant l'état de préparation des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique le long des côtes iraniennes du golfe Persique, le commandant a déclaré : si les Américains avaient fait une erreur, un enfer aurait été allumé pour eux. Le 12 janvier 2016, deux embarcations de la marine américaine transportant 10 Marines ont été interceptées par les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique après avoir pénétré dans les eaux territoriales iraniennes près de l'île Farsi. Initialement, l'armée américaine a affirmé que les Marines étaient entrés par inadvertance dans les eaux iraniennes en raison d'une défaillance mécanique. Mais le contre-amiral Ali Fadavi, alors commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré plus tard que l'incident s'était produit en raison de problèmes techniques avec les systèmes de navigation des navires américains. Le corps des gardiens de la révolution islamique a libéré les Marines un jour plus tard, déclarant dans un communiqué qu'après des examens techniques et opérationnels effectués en interaction avec les autorités politiques et les experts de sécurité nationale compétentes du pays et l'établissement du caractère accidentel et non intentionnel de l'entrée par les embarcations de la marine américaine et leurs excuses, une décision a été prise de les libérer. Le communiqué indique que les Américains s'étaient excusés et se sont engagés à ne pas répéter l'erreur et a ajouté : les Marines américains arrêtés par les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont été relâchés dans les eaux internationales sous la surveillance des navires du corps des gardiens de la révolution islamique. L'ancien secrétaire d'État américain John Kerry a remercié les autorités iraniennes de l'époque pour leur coopération à la libération des Marines de la marine américaine. Plus tard, l'Iran a publié une série d'images et de vidéos qui, entre autres, montraient les Marines de la marine américaine à genoux, les mains jointes derrière la tête, alors qu'ils étaient appréhendés sur leur navire. Le général Ramezan Zirahi a déclaré que les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique sont entrées dans l'histoire en capturant les Marines arrogants du Grand Satan. Une heure après la capture des Marines américains dans les eaux de l'île Farsi, un porte-avions et des navires de guerre américains, alors qu'ils étaient dans la confusion et le stress, se sont rapprochés de nos forces, se souvient le commandant. Leur navire de guerre nous a avertis nerveusement et en colère afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs grâce à une pression psychologique, a-t-il déclaré. Mais les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont géré le champ de l'action avec autorité. Le général Ramezan Zirahi a ajouté que les Américains avaient réalisé, après la rencontre, que l'Iran ne plaisantait pas. Au stade actuel, a-t-il poursuivi, la capacité militaire de la République islamique d'Iran n'est même pas comparable à celle de l'année précédente. Il a également déclaré que la République islamique d'Iran ne cherche pas du tout les tensions et l'instabilité dans la région, mais a ajouté que toute action stupide se heurterait à une réponse décisive de la part des forces armées iraniennes. We'll be right back. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder ces négociations entre les États-Unis et la Russie, des négociations qui ont eu lieu à Genève. Et les négociations entre les représentants américains et russes à Genève, au cours desquelles les conditions de conclusion d'un traité de sécurité ont été discutées, se sont soldées en vain pour la partie russe. Comme il ressort des données exprimées à la fois par les parties américaines et russes, les États-Unis ont complètement refusé de discuter de la question de la non-expansion de l'OTAN, ainsi que celle d'admettre des pays comme l'Ukraine et la Géorgie dans l'Alliance, ce qui était une exigence clé de la Russie. Comme vous le savez très bien, les Russes sont très sensibles à cet élargissement de l'OTAN vers l'Est, c'est-à-dire vers les frontières de la Russie. Et jusqu'à présent, à maintes reprises, les autorités du Kremlin ont mis en garde l'OTAN contre l'élargissement de, si vous voulez, de cette alliance vers l'Est, et les autorités russes y voient une menace à la sécurité, si vous voulez, de la Russie. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste France et des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir. Bonjour, M. Dorosti, et bonjour à tous vos auditeurs et à M. Dortiguier, M. Dupichet, je crois.
Vous l'avez dit, M. Dortiguier, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un géopoliticien belge des questions, un analyste politique des questions internationales, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à toute l'équipe et surtout.
Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
Mais je ne vous entends pas très bien. Si vous nous le permettez, M. Michel, on va commencer notre émission avec M. Dortiguier. Notre liaison avec Bruxelles n'est pas bonne et mes amis à la régie vont tenter en fait de régler ce souci technique. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous sur ces négociations qui ont eu lieu entre la Russie et les États-Unis à Genève? Mais en fait, ces négociations se sont soldées jusqu'à présent par un échec. Comment expliquez-vous cet échec de ces négociations entre de Washington et Moscou, s'il vous plaît?
Ces négociations se sont, comme vous le dites, jusqu'à présent soldées par un échec, mais elles sont appelées à être reprises, bien sûr, car il est inévitable, il est nécessaire pour les deux blocs qui se forment maintenant, le bloc américain et le bloc russe, ou plutôt, disons, les puissances américaine et russe, de parvenir à un accord, à une sorte de mode de vie, modus vivendi, comme disons. Je crois que la pierre d'achoppement n'est pas du tout l'attitude russe qui est très, très sensible, très susceptible. Je dis ça sans aucun jugement de fond, mais c'est une description sur la question de l'Ukraine. Je crois que cette question ukrainienne est très sérieuse. C'est-à-dire qu'elle engage l'ensemble de la sécurité européenne. Il est certain qu'il pourrait y avoir une solution, disons, territoriale. Mais pour cela, il faudrait que la Russie et les États-Unis, abandonne ou disons trouve une autre perspective de politique que celle jusqu'à présent qui a régné au 20, au 19e et au 20e siècle, à savoir celle de la zone d'influence. On ne peut pas maintenir des États dans une sorte de menace ou de ce qu'on appelait autrefois une guerre froide. C'est une formule qui peut être facile et aisée quand on raisonne en termes militaires ou en termes de pression économique, par exemple, comme on l'a fait contre l'Iran, par exemple, avec un blocus. Mais je crois que c'est tout à fait inadapté aux conditions actuelles de vie qui font que les États sont beaucoup plus liés les uns aux autres qu'on ne le croit. Qu'est-ce qui pourrait séparer, par exemple, l'économie allemande de l'économie russe aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait séparer, notre politique de défense européenne, de certaines exigences? Il est certain qu'il y a en Ukraine deux parties qui se forment, une partie occidentale qui a toujours été, très défavorable ou, très méfiante envers la Russie. Je n'en veux pour preuve que l'accueil que les Ukrainiens ont fait aux Allemands en 1941, par exemple, ils les ont vus comme des libérateurs, je parle en 1941, les photographies sont là. Vous avez de l'autre côté, bien sûr, depuis que la Crimée, qui était elle-même occupée, vous savez, autrefois, par des Tatars, que les Russes avaient expulsés en 1946, et puis ensuite retrouvés en 1956 au mois de Khrouchtchev, vous aviez bien sûr aussi, des problèmes ethniques, c'est sûr, et qu'il fallait les traiter, ce que les Russes ont fait en partie, les traiter par des compromis. Vous voyez, on ne peut pas avoir une attitude unilatérale. Je crois que cet échec commun, je dirais commun, des Américains et des Russes, c'est-à-dire, j'entends, l'impossibilité de parvenir à une conclusion, vient du fait qu'ils raisonnent selon des critères de puissance qui sont en train d'être dépassés. Voyez-vous, je ne dis pas qu'ils sont dépassés, mais qui ne correspondent plus aux nécessités actuelles, en particulier à l'unité du monde telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'unité, j'entends, du point de vue économique. Et je crois que ces négociations reprendront. Il ne s'agit que d'une interruption. Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, je dirais, à la stabilité des deux grandes puissances en question.
Luc Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Luc Michel, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ?
Non, pas de problème. Comme okay. Vous étiez devant moi.
OK. Vous avez en fait entendu les explications de M. d'Ortiguier. Quelle analyse portez-vous sur ces négociations entre la Russie et les États-Unis, s'il vous plaît ?
En désaccord, pour une fois, avec le professeur d'Ortiguier. Les responsables de ce qui se passe en Europe, ce sont les États-Unis, qui cherchent la confrontation parce que c'est la base de leur géopolitique, c'est que qui contrôle l'Eurasie domine le monde, et pour ça il faut détruire le cœur du monde, qui est la Russie. En Ukraine, les Russes sont chez eux, c'est leur étranger proche, et ils protègent leur population. Il y a quelques semaines, le président ukrainien Zelensky, excité par les Américains, a tenu un discours dans lequel il déclarait que les populations russophones de Donetsk et de Lugansk étaient des non-humains. C'est exactement les théories des nazis en 1941. Contrairement au professeur Ortiguier, je suis contre cette conception soi-disant d'une économie globalisée et mondiale. Je pense qu'il faut au contraire, comme la Russie le voudrait, un nouveau Yalta et revenir aux sphères d'influence, en particulier en Europe centrale. Poutine a clairement défini les lignes rouges de ce nouveau Yalta. C'est plus un pas en avant pour l'OTAN à l'Est. Aujourd'hui, l'OTAN est voisine de la Russie sur toutes ses frontières, comme vient encore de le démontrer la tentative avortée de révolution de couleur au Kazakhstan. La Russie n'abandonnera pas. Quel est l'enjeu de l'Ukraine ? C'est de priver la Russie de Sébastopol en Crimée, qui est au cœur de la géopolitique russe depuis Catherine la Grande au XVIIIe siècle. Il y a un axe géopolitique Sébastopol-Tartous en Syrie qui permet à la Russie d'être présente en Méditerranée orientale. Donc la Russie ne reculera pas et les Américains dans leur propagande russophobe qui parfois est délirante, avec cette façon d'exciter tous les pays européens en cultivant des nostalgies géopolitiques, c'est un facteur belliciste actuellement. Nous sommes entrés dans la troisième guerre froide 3.0 qui précède la Troisième Guerre mondiale. Et les Américains, évidemment, n'ont pas compris que leur politique, pas seulement avec la Russie, mais vis-à-vis de la Chine ou de l'Iran, conduisait à la guerre. N'oubliez pas une dernière chose, c'est quand vous lisez les géopoliticiens américains comme George Friedman, ils pensent qu'ils disposent encore pour une quinzaine d'années d'une fenêtre d'opportunité géopolitique pour faire du 21e siècle un siècle américain en émigrant la Russie et la Chine. Et donc, ils sont simplement, ils font le calcul que la guerre ruine les nations au monde entier, mais pas les États-Unis. Il y a eu, il y a quelques mois, une étude du TikTok Axios aux États-Unis qui a étudié la bourse pendant les guerres américaines. Pendant que les guerres ruinent les pays, les États-Unis voient leur bourse augmenter. Même pendant la guerre du Vietnam, qui est une guerre qu'ils ont perdue, la bourse de New York est montée de 40%. Je ne crois donc pas à ces négociations. Je crois qu'elles n'iront à rien. Et il est clair que les Américains n'en ont pas envie. Il faut lire les déclarations du ministre Blinken avec les pays de l'OTAN depuis 48 heures. Et la Russie non plus ne s'attend pas à cela. L'Amérique simplement croit qu'elle fera reculer la Russie. C'est une erreur fondamentale.
Monsieur Dortillet, Monsieur Michel vient de faire allusion, si vous voulez, à cette tentative de la révolution au Kazakhstan. Il y a eu surtout cette déclaration du président russe Vladimir Poutine qui a dit que voilà, il n'est absolument pas question pour la Russie de permettre une telle révolution de réussir au Kazakhstan. C'est un sujet, un nouveau sujet de friction entre la Russie et les États-Unis. D'autres sujets de friction, il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie, auquel vous-même, Michel, avez-vous, si vous voulez, avez fait allusion. Il y a également la question syrienne, la politique américaine envers la Syrie, envers la région du Moyen-Orient, envers l'Iran. Il y a également la politique européenne, si vous voulez, des États-Unis. Ce sont en fait des sujets de friction entre les États-Unis et la Russie. Monsieur de Dortillet, si j'ai bien suivi Luc Michel, il estime que voilà, c'est la politique américaine qui gêne.
Oui, en effet, c'est la politique américaine qui gêne. Bon, je ne devrais pas soutenir le paradoxe, qui est un paradoxe que nous avions, nous, en philosophie, surtout dans les années 60, quand nous parlions des deux blocs, de l'américanisme et du soviétisme. C'est-à-dire que les deux blocs s'opposent. Mais s'ils s'opposent, c'est peut-être aussi, c'est une suggestion que je fais, mais sérieuse, disons, n'est-ce pas parce qu'ils ont une conception analogue, je ne dis pas identique, mais analogue de la puissance. Je crois que c'est une question à poser. Quant à M. Michel, je dirais qu'il y a un point sur lequel, hélas, je suis d'accord avec lui. Je dis hélas, vous comprendrez tous, je dis ça amicalement, c'est que la politique actuelle d'affrontement de la Russie et des États-Unis conduit effectivement à la vraisemblance, moi je dirais même à la fatalité, d'un troisième conflit mondial. Bon, on ne peut pas le crier sur les toits, mais c'est vraiment ce vers quoi nous allons s'il n'y a pas, disons, une réaction générale. Comment peut-elle être? Est-ce qu'elle peut venir d'autres blocs? Je ne le crois pas, mais elle doit venir d'une réflexion, disons, à l'intérieur et des États-Unis et de la Russie. Je crois que on peut traiter, disons, quand je parle d'unité du monde, je crois que c'est une unité économique, disons. Ce n'est pas une sorte de pouvoir impérial, mais comme un corps sensible, tout ce qui touche une partie du monde, disons, rejaillit dans la sensibilité générale. Que ce qui se passe au Kazakhstan a été défini, ce n'est pas faux, comme une sorte de révolution de couleur, comme une sorte d'emprise américaine sur les affaires locales. Mais quand on voit les choses en même temps, ce n'est pas faux, mais il faut voir les choses de plus près aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit là du résultat également d'une sorte de domination, c'est un reliquat de l'époque soviétique où les gens, disons, étaient des petits chefs chez eux, voyez-vous. Et il y a eu certainement une sorte une responsabilité de l'ancien chef qui est toujours chef d'État, je crois, du Kazakhstan, certainement, qui a vu organiser une sorte de révolution, si je puis dire, d'agitation contre son successeur. Maintenant, que par exemple, je dis ça sans polémique, que par exemple il faille une intervention militaire de groupes de sécurité, avec par exemple la Biélorussie, pour intervenir au Kazakhstan, je trouve cela, disons, dangereux. Je trouve ça très grave. Car comment va-t-on demander aux Américains de ne pas intervenir quelque part si nous adoptons, là j'adopte un ton un peu polémique, mais qui sans aucune méchanceté, croyez-moi, si on adopte une position analogue, voyez-vous, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'une troisième voie? C'est la question que je pose, de sortir de là. Vous savez, l'imam Khomeini disait ni Est ni Ouest. Ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer les deux, mais il faut avoir une attitude, disons, beaucoup plus profonde, beaucoup plus liée au respect, à la notion de l'indépendance de chaque nation, et ne pas les traiter simplement comme des pions, entre deux personnes qui jouent aux œufs d'échecs. Voilà exactement mon point de vue, disons, quant à ce qui s'est passé au Kazakhstan. Je pourrais donner un souvenir de quand je travaillais chez les gaullistes en 70 à Solferino. Nous avions reçu le délégué de l'agence TASS, c'était Yuri Babayansk, et qui était lui-même du Kazakhstan, et il disait à l'époque au Parti communiste du Kazakhstan, on ne trouvait aucun indigène. Il dit, c'était comme chez vous, il dit, c'est pire que chez vous en Algérie. Bon, et voilà, disons aussi, ce qu'il faut comprendre, voyez-vous, il faut qu'il y ait une modification de l'état d'esprit des uns et des autres. Disons, il y a une responsabilité américaine considérable, bien sûr, elle est même, disons, il faut être aveugle pour ne pas la voir. Mais il faut savoir y répondre. C'est le sens de cette réflexion que je vous donne, voyez-vous. Vous ne pouvez pas répondre aux Américains avec les mêmes armes qu'eux.
Luc Michel, vous avez entendu de M. Dorthiguier cette politique d'affrontement entre la Russie et les États-Unis pourrait conduire, si vous voulez, même à la fatalité, dont la conséquence serait le déclenchement d'un troisième conflit mondial. Et selon M. Dorthiguier, il faut en fait, il y a une solution, il faut aller vers une troisième voie. C'est votre avis également. Luc Michel, est-ce que vous avez entendu ma question? Malheureusement, nous avons perdu, semble-t-il, notre liaison avec Bruxelles, avec Luc Michel, plus précisément. On va, en fait, poursuivre notre débat en attendant avec vous, monsieur Dorthiguier. Mais le problème, quand même, c'est que, monsieur Dorthiguier, les États-Unis ne cessent, si vous voulez, d'adopter ce langage menaçant à l'égard de la Russie et d'aller vers l'élargissement de l'OTAN, qui est considéré, M. Dorthiguier, je viens de le dire tout à l'heure en début de notre émission, comme une menace à la sécurité nationale de la Russie.
Oui, en effet. Il est certain que cette réaction russe est tout à fait raisonnable. La plupart d'ailleurs de mes camarades de l'école des chartes ou d'autres, enfin, avec qui j'en parlais, ont la même opinion. C'est sûr que c'est une menace directe, c'est une provocation, disons. Et c'est cette provocation, justement, à laquelle il faut savoir répondre. C'est-à-dire, faut-il se lancer dans une réaction, d'ancien style? Mm-hmm. Voyez-vous, disons, adopter une autre formule.
Merci beaucoup. J'ai bien saisi votre, en fait, message, M. Dorthiguier. Vous dites que voilà, il faut adopter, si vous voulez, une nouvelle voie, une troisième voie. La parole est à vous, Luc Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Dorthiguier qui dit que voilà, pour éviter ce troisième conflit mondial, il faut aller vers une troisième voie? Et je viens de poser cette question tout à l'heure à M. Dorthiguier, que le problème vient quand même du côté américain. Les États-Unis ne cessent, si vous voulez, de proférer des menaces contre la Russie.
De troisième voie, mais vous oubliez un terrain de confrontation entre les deux blocs, c'est l'Afrique. Cette semaine, la Russie a déployé des troupes au Mali. Après avoir déployé des troupes en Centrafrique, la Russie est présente dans 14 pays africains et elle est saluée comme une puissance salvatrice par tous les Africains. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle géopolitique qui est constitué par la reconstitution des deux blocs de la Première Guerre froide. Il y a le bloc américain occidental qui ne déforme toujours le capitalisme, la démocratie libérale. Il y a le bloc de l'Est qui, lui, défend des régimes que les Américains appellent illibéraux. C'est Joe Biden lui-même qui a contribué à la constitution de deux blocs idéologiques parce que les Américains ont besoin d'un ennemi, notamment pour vendre des armées pour rechercher la guerre. Quelle est la théorie du bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran, qui sont tous les trois agressés par Washington? C'est un monde multipolaire auquel ils appellent d'ailleurs les Africains. Quelle est la théorie géopolitique des Américains? C'est un monde unilatéral, unipolaire, dominé par la superpuissance américaine qui pille le monde, qui établit l'impérialisme et l'exploitation. Il n'y a donc pas de troisième voie. Et ce qui est en train de se mettre en place actuellement, c'est que les deux blocs, justement, sont en train de choisir des positions de force géopolitique pour préparer, malheureusement, la troisième guerre mondiale qui est inévitable. En particulier, il y a le plan de Poutine qui a été défini en 2018 de reconstituer des flottes russes comme du temps de Brejnev sur les six océans du globe et de combattre l'expansionnisme américain partout. Nous sommes devant un affrontement géopolitique fondamental. Le bloc américano-occidental, c'est une puissance maritime, une thalassocratie des États-Unis, alliée à des thalassocraties secondaires, la France, les Émiratis, le Japon, l'Australie. Qu'est-ce que c'est le bloc de l'Est? C'est une alliance d'États continentaux qui ont une histoire millénaire, la Chine, la Perse-Iran et la Russie qui est l'héritière de l'Empire romain, qui est la troisième Rome. C'est inconciliable et géopolitiquement et idéologiquement. C'est cela qu'il faut retenir de l'affrontement. C'est pour ça que ces négociations deviennent. C'est un espèce d'exercice de musculation des deux côtés. Simplement, les Américains ont commis une erreur d'appréciation. Ils croient qu'ils sont toujours dans l'ancien cycle géopolitique où ils étaient la superpuissance et ils n'ont pas compris que cette fois-ci, la Russie ne se laisserait plus faire. Pas plus que l'Iran, pas plus que la Chine. Il y avait une dernière chose à dire. Vous savez qu'il y a eu un sommet des démocraties il y a quelques semaines à Washington, organisé par Biden, où il a convoqué 80 pays.
Merci beaucoup.
Et dont il a exclu l'Iran, la Russie et la Chine. Et à sa grande surprise,
mais nous avons
10 questions sur la...
Merci beaucoup.
Ils ont vanté leur modèle.
Luc Michel. Nous avons, en fait, notre liaison avec Bruxelles est mauvaise aujourd'hui. Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. En Afrique, le groupe takfiriste Ansarou réaffirme son allégeance à Al-Qaïda. Le groupe, affilié à Al-Qaïda au Nigeria, Jama'a Ansar al-Muslimin fi Bilad al-Soudan, mieux connu sous le nom d'Ansarou, a reconfirmé son allégeance à Al-Qaïda dans une récente déclaration publiée en ligne. Notre groupe, que Dieu le chérisse, a prêté la Baïa, serment d'allégeance, à Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2020, affirme le communiqué d'Ansarou. Aucune date précise ni aucun autre détail n'ont été donnés au sujet de l'engagement. Le communiqué ajoute également que Ansar al-Muslimin est actif dans le nord du Nigeria, près des frontières du Niger et du Bénin, au nord et à l'ouest. La déclaration offre peu de détails supplémentaires concernant la relation exacte avec Al-Qaïda. ni la direction centrale d'Al-Qaïda, ni Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, n'ont explicitement discuté du rôle du groupe au sein de l'organisation depuis le retour opérationnel d'Ansarou. Des sources indépendantes ont toutefois confirmé qu'Ansarou maintenait des liens opérationnels avec la branche sahélienne d'ACMI, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Par exemple, les chercheurs ont découvert l'année dernière que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans avait fourni à Ansarou des armes légères capturées lors des conflits au Sahel. La plupart des informations concernant l'allégeance continue d'Ansarou et son appartenance à Al-Qaïda proviennent de sa propagande. Depuis la résurgence publique d'Ansarou fin 2019, les médias produits par ce groupe ont documenté la nette affinité idéologique d'Ansarou avec l'organisation Al-Qaïda. Par exemple, en novembre 2021, une vidéo du groupe a fait surface en ligne avec des images plus traditionnelles d'Al-Qaïda, dans lesquelles des clips d'Oussama Ben Laden, les attentats du 11 septembre et des éloges visuels pour les dirigeants d'Al-Qaïda morts ont été diffusés. Et en décembre 2021, une autre vidéo a été publiée en ligne dans laquelle Ansarou a félicité publiquement les talibans afghans pour leur capture de l'Afghanistan. Cette déclaration, qui a été publiée des mois après sa production, faisait suite à des déclarations similaires publiées par d'autres branches et groupes affiliés à Al-Qaïda. Pendant ce temps, certaines des attaques du groupe ont été revendiquées publiquement par les armes de propagande mondiale d'Al-Qaïda. Les partisans d'Al-Qaïda ont en outre partagé d'autres médias produits par Ansarou, tandis que le groupe maintient également son propre forum sur le principal serveur Rocket Chat d'Al-Qaïda, bien qu'il soit en grande partie en sommeil. Ansarou donne un aperçu de sa fondation. En plus de confirmer son allégeance à Al-Qaïda, la récente déclaration d'Ansarou a également fourni une brève explication de sa fondation, bien que la plupart des informations fournies soient déjà connues. Par exemple, Ansarou déclare avoir été fondé en tant que groupe dissident du soi-disant Boko Haram au début de 2012, après que son chef, Aboubakar Shekou, a commencé à montrer de l'extrémisme et une déviation de la croyance. Selon le groupe, il nous fallait nous séparer de lui et annoncer notre désaveu de lui. Cette explication de la fondation d'Ansarou a également été discutée dans la déclaration de fondation du groupe. De plus, ACMI lui-même a déjà discuté de la fondation d'Ansarou et de son lien avec la déviance de Shekou dans un livre qu'il a publié en 2017. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans la récente déclaration d'Ansarou, sa séparation d'avec Shekou s'est faite sur ordre et avec le soutien d'ACMI. Cette création a donné à ACMI une filiale moins problématique en ce qui concerne les meurtres aveugles de civils par Shekou pour poursuivre son implication et son implantation au Nigeria. Ansarou lui-même était donc ouvert sur ses relations avec Al-Qaïda dans le passé. ACMI avait auparavant soutenu Sékou, y compris la formation et le financement de Boko Haram, tandis que Sékou avait également donné allégeance à Al-Qaïda à un moment donné avant sa défection à Daesh en 2015. Il n'est pas clair si Sékou a maintenu cette allégeance après la création d'Ansarou et quand ce groupe et Al-Qaïda se sont concentrés sur le soutien à la faction qu'ils ont encouragé à se séparer de Sékou. Entre 2015 et fin 2019, Ansarou était en grande partie en sommeil au Nigeria. Depuis fin 2019, parallèlement à l'aggravation des violences communautaires et à la montée du banditisme général, Ansarou est redevenu actif dans le nord-ouest du pays. Le groupe a terminé sa dernière déclaration en soulignant qu'il poursuit désormais le djihad et la lutte contre les infidèles malveillants et les apostats renégats dans le nord-ouest du Nigeria. Et ce faisant, il le fait sous l'égide d'Al-Qaïda. En Syrie, les bombardements russes s'intensifient sur Idlib, dernier bastion des terroristes takfiristes. Les troupes syriennes prennent position autour de la province. Sommes-nous à la veille de l'ultime bataille pour le rétablissement de la souveraineté territoriale syrienne? La guerre en Syrie est loin d'être terminée. Après la reprise du dernier bastion rebelle dans le sud du pays, à Dera, en septembre dernier, les regards se tournent vers la province du nord-ouest, Idlib. Depuis plusieurs jours, les avions russes Sukhoi 24 et la 25e division de l'armée syrienne commandée par Soheil al-Hassan se rapprochent d'Idlib. L'aviation russe a mené une dizaine de frappes à la périphérie de la ville. Les raids ont ciblé des positions terroristes. Les troupes de Damas commencent quant à elles à quadriller la zone pour une éventuelle opération au sol. Malgré le cessez-le-feu annoncé par les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan en mars 2020 et les pourparlers d'Astana, les autorités syriennes font souvent état d'attaques contre les villes voisines d'Alep et de Hama. Incendies criminels, attaques de transport de troupes, voitures piégées, enlèvements, prise d'otages. En effet, la province d'Idlib regorge de combattants takfiristes de la première heure, principalement regroupés au sein de Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, dirigée par Abu Muhammad al-Julani. Le mouvement ne compte pas moins de 30 000 hommes armés, dont 10 000 étrangers, notamment des Jordaniens, des Saoudiens et des Turkmènes. De surcroît, on retrouve d'autres groupes terroristes, à l'instar de Hurra Saldin et ses 2500 membres, et le Parti islamique du Turkistan, qui compte majoritairement des combattants ouïghours. Mais c'est bel et bien Hayat Tahrir al-Sham qui contrôle environ 60% de la province d'Idlib. Pour tenter de changer l'image à l'international, le chef de cette faction takfiriste a lancé depuis 2021 une campagne de séduction. Barbe taillée, gel, costume occidental et propos modérés, Abu Muhammad al-Julani a accordé une interview à un journaliste américain. Il s'est voulu rassurant, expliquant sa rupture définitive avec Al-Qaïda. De quoi trouver des avocats à sa cause outre-Atlantique. James Jeffrey, ex-envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale en Syrie, a qualifié l'organisation terroriste Hayat Tahrir al-Sham comme un atout de la stratégie américaine en Syrie.
Thank you.